toutes et à tous, vous écoutez RCJ sur le 94.8 sur la radio numérique, le DAB+, sur notre application RCJ et sur notre site www.radio-rcj.info. Il est 11h. Bien sûr, cette édition spéciale, bienvenue sur RCJ si vous nous rejoignez, une édition consacrée à l'opération Rising Lions lancée par Israël dans la nuit de jeudi à vendredi contre les installations nucléaires et militaires en Iran. Une opération répercussions multiples au Moyen-Orient qu'on évoquera durant toute cette heure avec nos nombreux invités. Mais bien sûr, les conséquences en Israël, et on fait le bilan de ces dernières heures avec vous, Laurence Goldman, bonjour.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. L'Iran a donc tiré la nuit dernière des salves de missiles contre Israël à l'heure même où l'aviation israélienne bombardait des sites liés au nucléaire et des dépôts de carburant à Téhéran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit vouloir frapper tous les sites du régime en Iran dans le cadre de cette attaque lancée vendredi par Israël, dont l'objectif est donc d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Alors la nuit dernière, vers 3h du matin, les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le pays en Israël. Des explosions ont été entendues tout d'abord à Jérusalem et à Tel Aviv. Des personnes ont été tuées, plus de 200 ont été blessées depuis hier soir dans la région de Tel Aviv et à Tamra en Haute-Galilée. La région de Tel Aviv, notamment dans la ville de Bat Yam, les tirs ont provoqué des dégâts et des destructions à Bat Yam, donc une petite ville qui se situe au sud de Tel Aviv. À la lumière des torches, les pompiers et les secouristes ont fouillé les décombres d'un bâtiment endommagé, voire détruit par un missile iranien. Alors, à cette heure, voici le bilan tel qu'on peut le dresser. La nuit dernière, 4 morts sont à déplorer à Tamra. Il s'agit des membres d'une famille d'Arabes israéliens, Manar Khatib, Khala Khatib, Shada Khatib, Manel Khatim. Par ailleurs, on déplore 6 morts dans cette attaque de missiles dans la ville de Bat Yam, donc près de Tel Aviv. Bon, vendredi soir, lors d'une première salve d'attaque, Eti Cohen Egel est décédé à Ramat Gan. Israël Aloni et Yevgenia Blinder sont eux morts dans la ville de Rishon LeZion. Le bilan provisoire à cette heure est donc de 13 morts depuis vendredi. 3 disparus, il s'agit d'habitants de Bat Yam qui ont été visés donc par cette attaque la nuit dernière. 4 autres personnes, toujours des habitants de Bat Yam, qui étaient portées disparues, ont été retrouvées dans plusieurs hôpitaux à proximité. Cette attaque aurait fait donc des centaines de blessés. L'ensemble du pays est bien sûr à l'arrêt depuis cette nuit. Les écoles, les commerces, sauf ceux d'alimentation, sont fermés. L'espace aérien israélien reste fermé aujourd'hui pour le 3e jour consécutif, selon un communiqué de l'autorité aéroportuaire israélienne. En coordination avec les forces de sécurité, l'espace aérien israélien reste fermé, dit le communiqué. L'aéroport Ben Gurion est toujours fermé aux arrivées et au départ. Un avis concernant sa réouverture sera publié au moins 6h avant cette réouverture. À noter également que le président de l'État Israël, Yitzhak Herzog, s'est exprimé ce matin dans un message posté sur le réseau social X. Il s'adresse au peuple d'Israël, je vais vous le citer en entier. « C'est une matinée très triste et difficile. Nos sœurs et frères ont été assassinés et blessés hier soir par des attaques criminelles iraniennes contre la population civile de Bat Yam, de Tamar et d'autres localités », dit Yitzhak Herzog. « Juifs et Arabes, anciens combattants et nouveaux immigrants, enfants et personnes âgées, femmes et hommes compris. Je partage le profond deuil des familles et je pleure cette terrible perte. Je prie pour le rétablissement des blessés et la recherche des disparus. Nous pleurerons ensemble, nous surmonterons cette épreuve ensemble. » Voici donc pour le message du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, publié il y a quelques instants sur le réseau social X. J'ajoute cette réaction très attendue, bien sûr, celle de Washington. Donald Trump prévient l'Iran que l'armée américaine répliquerait avec toute sa force s'il attaquait les États-Unis, réaffirmant sur sa plateforme Truth Social que Washington n'a rien à voir avec les attaques israéliennes en cours contre Téhéran. Si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit par l'Iran, toute la force et la puissance des forces armées américaines s'abattront sur vous à des niveaux jamais vus auparavant. C'est ce qu'a déclaré donc Donald Trump. Nous pouvons facilement parvenir à un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant, a par ailleurs ajouté le président américain qui avait déclaré être au courant de l'opération israélienne avant qu'elle ne commence tôt vendredi matin. J'ajoute enfin pour conclure ce point d'information que le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré avoir ordonné à l'armée israélienne d'émettre des avis d'évacuation à l'intention des habitants de Téhéran qui vivent à proximité de sites militaires. Après l'ordre donné par Israël Katz, l'armée israélienne a appelé les Iraniens à évacuer les zones à proximité d'installations militaire, c'est ce qu'on peut dire, on peut lire dans un communiqué publié sur le réseau social X, s'adressant à toutes les personnes qui se trouvent actuellement dans des installations militaires en Iran ou à proximité. L'armée a demandé à évacuer immédiatement les lieux, précisant que leur vie était en danger. Cette décision fait partie d'un plan visant à faire pression sur le régime ancré dans le déplacement de population, selon une source sécuritaire israélienne.
Merci beaucoup Laurence. 11h06 sur RCJ. On est à présent en ligne en direct de Tel Aviv avec Philippe Koskas, un habitant. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Philippe Koskas, vous êtes avocat franco-israélien, vous vivez depuis plusieurs années maintenant à Tel Aviv, dans le centre de la ville, je crois. Alors racontez-nous tout simplement comment s'est passé, comment vous avez vécu la nuit qui vient de s'écouler avec ces attaques de missiles iraniens.
Écoutez, les deux dernières nuits ont été difficiles. On a l'habitude, hein, bien entendu, depuis deux ans, on a l'habitude de ces alertes, de ces tirs de missiles. Mais je dois dire que les missiles iraniens ont un effet quand même beaucoup plus dévastateur que les missiles qui ont été envoyés par les Houthis ou même ceux qui avaient été envoyés par le Hezbollah ou le Hamas pendant ces derniers mois, dans le sens où on le sent. Moi, je sais qu'il y a deux jours, il y a une tour à côté de chez nous, à peu près 300 mètres de chez nous, qui a été atteinte. Et on était dans la chambre forte, quoi, le mamad de notre appartement, et l'immeuble a vraiment tremblé. Donc, si vous voulez, on a bien conscience qu'on a affaire à quelque chose de différent. Les missiles ont des portes, une capacité de destruction qui est bien supérieure à celles qui ont été envoyées, à celles qu'on avait connues. Et surtout, évidemment, mais ça on a l'habitude, c'est que évidemment les Iraniens visent les populations civiles. C'est-à-dire il n'y a pas du tout de tir visé, de tir ciblé. Il n'y a pas du tout de tentative d'atteindre des objectifs militaires. On attaque la population civile. J'allais dire hier, par exemple, ce qui s'est passé à Batiam, c'est une population qui est, j'allais dire, nécessiteuse. Des gens qui ont des immeubles qui avait été construit dans les années 60. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une volonté absolument délibérée de créer la terreur dans la population israélienne.
Concrètement, Philippe Koskas, quel est le processus d'alerte qui a été mis en place par l'armée? Comment est-ce que vous êtes prévenu qu'une alerte est en cours et qu'il faut se rendre dans les abris sécurisés? Comment vous êtes prévenu? Par téléphone? Il y a des sirènes?
Oui, alors je dois dire que c'est beaucoup plus cool que, si je peux dire, si je peux utiliser le terme cool, que ce qui se passait lorsque, par exemple, je sais pas, lorsque le Hamas ou le Hezbollah nous tirait dessus, puisque là on a a priori une vingtaine de minutes pour se mettre en place, j'allais dire. On est prévenu, en fait, il y a trois niveaux de sécurité. On est d'abord prévenu par SMS. On est prévenu d'abord par le qu'on doit être près d'un abri. Il faut qu'on soit près de l'abri. Et puis après, on est prévenu par SMS. Et puis après, il y a la sirène qui attend. Et ça, c'est clair. Par exemple, on a vu hier, on avait été demandé avant l'attaque de 3h du matin. Hein, je crois qu'il y a eu une autre attaque. Je crois qu'il devait être vers les minuit. Qui a attaqué Jérusalem, par exemple. Bon, alors on était près de l'abri, et puis après on a vu qu'à Tel Aviv il y avait pas de sirène, donc a priori on n'était pas concerné. Et puis évidemment après, et ce qui est nouveau également, c'est qu'on ne sort pas au bout de 10 minutes de l'abri. On doit attendre jusqu'à ce que le porte-parole de l'armée nous demande de sortir. Donc si vous voulez, c'est une procédure qui nous C'est plus tranquillisant d'une certaine manière, puisqu'on est, ça nous donne plus de temps à réagir. Mais d'un autre côté, les effets, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus dévastateurs.
Quelle est l'atmosphère ce matin dans les rues Tel Aviv? Est-ce que vous avez pu sortir? Est-ce qu'il y a des commerces qui sont ouverts, des gens dans les rues?
Ah oui, absolument. Bah, écoutez, je dois dire, c'est assez serein hein, dans le sens où bon, les commerces ouverts, oui, il y en a. Hein, c'est les commerces de première nécessité, les pharmacies, les supermarchés, voilà, et quelques cafés d'ailleurs. Oui, je me suis promené ce matin dans Tel Aviv pour faire mes courses. Je dois dire que les Israéliens sont absolument déterminés, hein, puisque en fait, on arrive à j'allais dire, à la tête du serpent, et toute personne en Israël est tout à fait au courant que le Hamas n'était qu'une branche de l'Iran. Le Hezbollah, c'est aussi une autre branche de l'Iran. Et comme ces deux branches ont été, j'allais dire, démasquées, on arrive vraiment à la tête du serpent. Donc les Israéliens sont tout à fait au courant. On est tout à fait motivés pour j'allais dire, passer cette période. Ça va nous durer encore une journée, deux journées, une semaine, deux semaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tout à fait conscient que l'Iran était le seul danger existentiel sur le pays. Mmh. Et que ce danger, il faut l'annihiler. Donc on est tout à fait prêt à assumer, j'allais dire, toutes ces... tous ces tirs et j'allais, le fait que ça, c'est évidemment ça trouble notre quotidien.
Dernière question, Philippe Koskas, à vous entendre, on comprend que le sentiment d'unité nationale hein, en Israël est retrouvé et qu'il est intact aujourd'hui. Les Israéliens sont derrière le gouvernement, tous ensemble pour combattre.
Absolument, absolument. Je crois que là-dessus, on a beau dire, il y a des dissensions dans le pays depuis déjà trois dernières années. Mais là, on est tous unis derrière. On sait très bien qu'on a affaire à un ennemi qui est existentiel, qui met notre vie en jeu. Donc là-dessus, tout le pays, mais vraiment tout le pays, hein, est complètement uni face à ce danger.
Merci infiniment Philippe Koskas d'avoir été en ligne avec nous depuis Tel Aviv. Je rappelle que vous êtes un avocat franco-israélien installé dans le pays depuis plusieurs années. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
11h11 sur RCG. Dans un instant, on va retrouver notre correspondante sur place, Ava Merji, qui sera en direct de Bat Yam. On le rappelle, plus de 6 morts sont à déplorer ce matin, plusieurs disparus et plus d'une centaine de blessés. On va vous faire un point tout d'abord sur les dernières informations et des sources de Tzahal qui ont évoqué auprès du média israélien Yediot Aharonot. Nous attendions à une situation pire, même si la situation pourrait encore s'aggraver. Elles évoquent le fait que les tirs aussi qui ont été menés contre les Houthis ont pu atteindre leur capacité. Et on se retrouve dans un instant sur RCJ. On va être en lien avec Ava Merji en direct de Bat Yam. Restez avec nous sur RCJ. On se retrouve tout de suite. Un dernier point sur l'information peut-être avec vous, Laurence Goldman, pour évoquer à nouveau ces messages, notamment celui du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Vous évoquez avec Philippe Koskas ce sentiment d'unité, se dire aujourd'hui les Israéliens dans cet état d'esprit, et malgré ce bilan de déjà 13 morts qui est l'un des plus lourds depuis le 7 octobre, et ce sentiment d'unité, de se dire il y a un objectif derrière lequel les Israéliens ont conscience qu'il faut aller empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. C'est un objectif derrière chacun semble uni en ce moment.
Oui, absolument. Et donc, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, il a pris la parole ce matin sur le réseau social X en s'adressant directement au peuple d'Israël. Un message à la fois déterminé et à la fois plein d'humanité. C'est une matinée très triste et difficile, dit Yitzhak Herzog. Nos sœurs et frères ont été assassinés, blessés hier soir par des attaques criminelles iraniennes contre la population de civils de Bat Yam, Tamar et d'autres localités, juifs et arabes, anciens combattants, nouveaux immigrants, enfants, personnes âgées, femmes et hommes compris. Je partage le profond deuil des familles et pleure cette terrible perte. Je prie pour le rétablissement des blessés et la recherche des disparus. Nous pleurerons ensemble. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Voici donc pour ce message du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, publié ce matin sur le réseau social X. Je rappelle le bilan à cette heure des attaques de la nuit dernière en direction notamment de la ville de Ramat Gan où plusieurs immeubles ont été détruits par des missiles de Bat Yam, pardon. Donc le bilan de la nuit dernière, 4 morts à Tamra, les membres d'une même famille, des Arabes israéliens, 6 morts dans la ville de Batiam la nuit précédente, de vendredi à samedi. On déplorait un mort dans la ville de Ramat Gan et Tikoen Engel, 2 morts dans la cité de Rishon LeZion, Israël Aloni et Yevginia Blinder. Le bilan provisoire ce matin est donc de 13 morts, 3 personnes portées disparues dans l'attaque sur la ville de Batiam. 4 autres qui étaient portées disparues auparavant ont finalement été retrouvées vivantes dans plusieurs hôpitaux situés à proximité. Cette attaque a fait des centaines de blessés, aux environs de 200 la nuit dernière, donc dans ces attaques de missiles en provenance de l'Iran, Elsa.
On va juste rappeler les noms des 4 victimes de cette ville à Tamra, les membres d'une même famille, dont une mère et ses 2 filles, Manar Katib, Rala Katib, Shada Katib et Manel Katib. Pour ce qui est de Batiam, on n'a pas encore les identités des victimes. Et justement, Batiam, vous y êtes, Ava Merji, bonjour.
Bonjour. Oui, on est juste devant cet immeuble de Batiam qui a été frappé de plein fouet. Il y a en ce moment Yitzhak Herzog qui est en train de s'exprimer devant les caméras. Il est venu voir l'état de cet immeuble. Et d'ailleurs, pas seulement cet immeuble où 6 personnes ont été tuées, 3 sont toujours portées disparues. Et on voit encore ici des véhicules, des machines qui s'activent pour essayer d'extraire ces personnes. On parlait ce matin de 7 disparus, mais il y en a 4 qui ont été localisés, retrouvés dans les hôpitaux du pays. Donc il en reste 3 à retrouver et le secouriste, les forces de sécurité estiment qu'il faudra encore 24 heures pour maîtriser la situation. Mais en même temps, chaque minute compte. Ici, on dit que ce bâtiment pourrait s'effondrer complètement. Il y a déjà une aile de 10 étages qui a été soufflée par ce missile, donc un impact direct de missile iranien hier soir et toujours aujourd'hui un danger d'effondrement. Donc on nous signale qu'il ne faut pas trop se rapprocher. D'ailleurs, il y a des secouristes des forces de sécurité qui laissent passer personne. Seules les forces de sécurité, les secouristes peuvent s'approcher. Et donc tous les journalistes lançons devant le président Herzog qui s'exprime, qui essaye d'écouter les habitants qui sont là, qui sont dans une grande détresse. On a vu aussi le député force juive Almog Cohen qui est là, qui était en train de parler avec une habitante et qui lui disait tous ceux qui ont été grièvement blessés ou tués, puisqu'il y a eu donc 6 morts, dont 2 enfants, c'est ceux qui n'étaient pas dans une pièce protégée dans cet immeuble. Il y avait un abri, une zone protégée à l'étage et une zone protégée au rez-de-chaussée. Et en tout cas, ce qui est dit par les responsables, plusieurs responsables aujourd'hui, c'est que ceux donc qui ont été grièvement blessés ou tués n'étaient pas dans ces espaces protégés.
Quel est l'état d'esprit sur place? Ça va, bien sûr, beaucoup d'inquiétudes. On s'en doute avec, on le rappelle, donc 6 morts, 3 disparus et encore énormément de blessés. Les Israéliens, pour la première fois, peut-être de façon aussi virulente, sont touchés avec un tel bilan depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Oui, on sent vraiment leur détresse, leur désarroi ici, surtout que c'est pas seulement cet immeuble. Quand on arrive, j'ai marché pendant 5 minutes et c'est vraiment toutes les fenêtres. On voit ici tous les volets qui sont soufflés ou par terre. Ce matin, il y a encore des gens, on entend les bruits de verre, des gens qui nettoient les éclats de verre, des gens qui sont un peu dans la rue, qui viennent voir un peu cette scène comme un spectacle parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont été évacués, mais voilà, ce matin, les gens qui recommencent à sortir, certaines personnes, puisqu'il y en a d'autres qui ont choisi de rester chez eux parce qu'ils ne sont pas obligés de travailler, les enfants ne sont pas obligés, ne doivent pas aller à l'école, ce sont les consignes de sécurité, mais pas mal de gens voilà, qui ne savent pas trop dans quel état ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, pour l'instant, il y a encore certaines personnes ici, quelques curieux qui sortent et qui essayent de profiter de ces quelques minutes de soleil avant certainement une nouvelle attaque iranienne pour respirer un peu, prendre un peu l'air et voir ce qui se passe dehors parce qu'ils ont besoin de voir eux-mêmes par leurs yeux ce qui s'est passé.
Et justement, sur ce lieu de l'attaque qui a eu lieu à Batiam, le ministre Eli Cohen qui dit pour chaque bâtiment qui tombe dans l'État d'Israël, 100 bâtiments tomberont à Téhéran et en Iran. Aujourd'hui, c'est ça la dynamique politique, c'est se dire on va jusqu'au bout, entre guillemets.
Oui, parce qu'il a toujours ces frappes qui continuent, et en parallèle, donc, on attend de nouvelles vagues de missiles iraniens, mais effectivement, donc une détermination, avec, on l'a vu encore ces dernières heures, des frappes y compris à Téhéran contre le quartier général du ministère de la Défense, de nouvelles frappes, donc ça ne s'arrête pas. Hier soir, donc un dépôt de pétrole qui brûlait encore toujours ce matin, d'où se dégageait de la fumée, et ici en Israël, pour l'instant. Donc un laps de temps, un moment de calme, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et certainement, à un moment, les forces de sécurité vont commencer à dire aux gens de rentrer chez eux parce qu'ils ne peuvent pas rester dehors et que ça va devenir dangereux.
Merci beaucoup, Ava. Et ce qu'on retient aussi, c'est un appel, bien sûr, aux Israéliens à bien se mettre à l'abri à chaque ordre, à chaque alerte du front du commandement intérieur. 11h20 sur RCJ. Et on fait à nouveau un point avec vous, Laurence Goldman.
Oui, un point, Elsa, sur les cibles qui ont été visées par l'armée israélienne la nuit dernière lors de ces frappes sur l'Iran. Alors, ce sont des informations qui viennent directement du porte-parole de Tsahal. L'aviation a détruit des lanceurs de missiles armés qui étaient prêts au tir en Iran, prêts au tir, bien sûr, en direction d'Israël. Ce que nous dit le communiqué de Tsahal, l'armée de l'air a attaqué cette nuit en Iran et détruit des lanceurs de missiles sol armé prêt au tir. Tsahal qui ajoute que l'aviation a également frappé des lanceurs qui avaient tiré des missiles vers Israël. Il a précisé que des infrastructures de missiles sol-air et des radars de détection du régime iranien avaient été attaqués dans le cadre, donc, selon Tsahal, de sa supériorité aérienne dans l'espace aérien du pays. Par ailleurs, Elsa, des responsables de Tsahal se sont exprimés sur les impacts des missiles iraniens en Israël, déclarant qu'on s'attendait à pire, même si cela pourrait encore évoluer. Selon eux, Israël a porté atteinte à la capacité de l'Iran à lancer des barrages dans nos attaques. D'après ces sources, les Iraniens ont tiré cette nuit environ 70 missiles en 3 salves, avec une courte pause entre les 2 dernières. Par ailleurs, Israël a visé des sites iraniens liés au projet d'armes nucléaires. L'armée israélienne a indiqué ce matin avoir mené une nouvelle série de frappes sur l'Iran contre des cibles liées à son projet d'armes nucléaires, dont le ministère de la Défense. Tsahal a déclaré sur sa chaîne Telegram que son aviation avait achevé une importante série de frappes basées sur le renseignement visant un certain nombre de cibles à Téhéran, des cibles qui sont donc liées au projet d'armes nucléaires du régime iranien, citant notamment le ministère iranien de la Défense et le siège de l'Organisation d'innovation et de recherche défensive de l'Iran. Un dernier point peut-être, Elsa, pour dire que le colonel Daniel Hagari a été rappelé au service de communication de Tsahal. L'ancien porte-parole de Tsahal, le colonel Hagari, a donc été rappelé de son congé de démobilisation pour rejoindre le service de communication militaire, où il occupera le poste de directeur de l'unité du porte-parole de Tsahal.
Merci beaucoup, Laurence. Et on est en direct d'Israël à nouveau. Et avec vous, Myriam Fedida, directrice du FSGU Israël. Bonjour.
Bonjour.
Myriam, deux questions. À la fois, vous, comment allez-vous? Et vous avez été très, très proche d'un des impacts qui a eu lieu ce week-end. Et aussi, je suppose, votre mobilisation qui continue en Israël, et notamment pour les franco-israéliens.
Évidemment, nous sommes depuis jeudi soir. J'ai envie de dire sur le qui-vive, et en termes de mobilisation pour les gens qui ont besoin de nous, pour des informations ou pour toute autre chose, et puis en termes aussi de ce qui va nous arriver, on va dire, puisque jeudi soir, effectivement, tout a commencé. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on a eu une alerte qui nous prévenait d'une éventuelle riposte de la part de l'Iran. Et puis vendredi matin, plus de 100 missiles ont été interceptés par des hommes de fer israéliens. Plus de 100 missiles avaient été tirés de l'Iran et ont été interceptés. Mais malheureusement, dans la nuit de vendredi à samedi, une réelle escalade, et là, des villes ont été touchées, des villes comme Tel Aviv, vous le savez, j'imagine, Ramat Gan, Rishon, Rehovot, et effectivement, moi j'habite Rishon, et plus jeune, et les impacts ont été d'une violence extrême, et sont intervenus dans un quartier tout près de chez moi. Donc c'est vrai que c'est pas très, très simple.
Quel retentissement justement sur toutes ces pertes humaines hein, auxquelles Israël n'était pas habitué. Il y a bien sûr tous les soldats morts à Gaza et qui font partie de la vie intrinsèque du pays et des personnes que les Israéliens pleurent chaque jour. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'accélère, qui touche les Israéliens. Comment vous le vivez? Comment les gens que vous aidez au quotidien le ressentent?
Écoutez, ce qui est différent cette fois-ci, c'est que en fait, on a jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait des attaques de missiles du Yémen, de Gaza, etc. Il n'y avait pas de destruction matérielle aussi forte et aussi significative qu'aujourd'hui. Si on parle de, par exemple, cette nuit, tout bêtement, c'est la ville de Bat Yam qui a été essentiellement touchée. Il y a 61 immeubles qui ont été touchés. Il y a 245 blessés à leur idée. On avait 18 personnes disparues. Maintenant, elles ne sont plus que 3, mais parce que les autres ont été retrouvés dans les décombres. Alors, heureusement, simplement blessés. On a 7 morts juste cette nuit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu sur les opérations d'avant, même depuis un an et demi, avec les tirs qu'on avait du Yémen ou de Gaza. C'est beaucoup plus fragilisant pour la population parce qu'on se rend bien compte que la possibilité de détruire des infrastructures et donc de toucher des civils est extrêmement facile pour l'Iran. Et on ne vit que depuis 48 heures. Et du coup, les gens ont une espèce de panique intérieure qui est totalement justifiée. Parce que quand vous regardez les images, effectivement, ce sont des quartiers entiers qui tombent. 61 immeubles en même temps, hier soir, pendant la nuit d'hier, sur une ville. C'est énorme. Et c'est vrai que y a une... Même si le peuple israélien est résilient, même si on est habitué, parce que depuis un an et demi, on est en guerre, et puis parce que Israël est un pays qui est habitué à la guerre, on a aujourd'hui, on fait face aujourd'hui à une réalité différente qui nous fait dire que oui, demain matin, notre immeuble ou notre maison peut être par terre. Et c'est vrai aussi que ça fait prendre toute la mesure. Souvent, on est un peu léger en Israël sur les consignes de sécurité du Pikoud Haoref et sur le respect des règles. Et c'est vrai quand on voit les images des destructions matérielles et qu'on voit, c'est dur à dire, même si c'est réel en fait, le peu de pertes humaines, c'est parce qu'on se rend bien compte que si les consignes de sécurité sont écoutées et appliquées, si les gens vont dans leur mikvah, leur mamad, qu'ils en aient dans leur propre appartement ou qu'il y ait des abris en bas de leur immeuble, qui sont des abris sous terre la plupart du temps, et bien leur vie sont sauvées. C'est-à-dire que quand tout est fini, l'immeuble est tombé, c'est vrai, mais les personnes peuvent sortir de leur abri vivantes. Et donc d'un côté, il y a cette réalité nouvelle qui est que des quartiers entiers en plein centre du pays peuvent s'effondrer, comme depuis deux jours, deux nuits plus tôt. Et puis en même temps que oui, on a d'abord une armée qui intercepte les trois quarts des tirs, hein, parce que faut savoir que même si on est touché dans les plus grandes villes, énormément de missiles sont interceptés. On sait aussi qu'on a la possibilité d'être sauvé. Mais malgré tout, on a des proches aujourd'hui. Moi, j'ai discuté avec des gens que je connais, qui font partie des gens qu'on soutient au FSJ en Israël, ici ou là, qui nous disent, on était à la maison, c'était un quartier de rue de la maison. Alors nous, notre immeuble, notre maison, elle n'a pas été touchée, mais les fenêtres ont explosé, le plafond s'est effondré, les portes tremblaient. Et il y a ce traumatisme, j'ai envie de dire, parce que la violence des déflagrations est extrême, les boums, on appelle ça des boums ici, sont très très forts, comme jamais on les a entendus, et vous avez tout le quartier autour de la ville qui tremble, qui m'est arrivé moi personnellement dans la nuit, par exemple, de jeudi à vendredi, où Christian a été touché à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de là où j'habite, et oui, j'habite au 12e étage d'une énorme tour, et tout tremblait. Alors, rien n'a été cassé, moi j'ai eu de la chance, mais... C'est vrai qu'il y a une violence des impacts qu'on n'avait jamais, jamais connue.
Dernière question, Myriam, peut-être sur le soutien psychologique, qui est bien sûr un des éléments que vous mettez en œuvre FSJ Israël depuis le 7 octobre et qui prend peut-être une autre ampleur aujourd'hui.
Tout à fait, il va falloir redéployer les choses différemment, parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours des nouveaux traumas. On disait, avec les gens avec qui on parle aujourd'hui, depuis deux jours au téléphone, on est un peuple de post-trauma, on est un peuple de trauma, mais en même temps, à chaque fois, ce sont des choses nouvelles. Et aujourd'hui, les gens qui ont été touchés dans le centre du pays. Jusqu'à aujourd'hui, on avait développé des programmes de post-trauma dans les villes du Sud, dans les villes du Nord, pour les gens qui avaient été impactés par le 7 octobre et ses conséquences. Mais aujourd'hui, on va être obligé de mettre en place des choses, et on commence déjà à y penser ici, avec les interlocuteurs locaux, à mettre en place des choses pour les populations du centre. On parle de gens de Tel Aviv, on parle de gens de Rishon LeZion, de Bat Yam, de Rehovot, des gens jusqu'à présent qu'on avait l'habitude de soutenir, mais de manière très légère. Aujourd'hui, il va falloir mettre en place des choses, au même titre qu'on a mis les choses en place pour les habitants du Sud. Voilà.
Merci beaucoup Myriam Fedida et on continuera bien sûr de suivre la situation avec vous tout au long de ces jours, de ces semaines à venir. Et d'ailleurs au sujet de cette question de l'écoute et du soutien psychologique, je vous informe chers auditeurs et auditrices qu'une ligne d'écoute et de soutien psychologique a été mise en place par les institutions juives. C'est le 01 86 96 20 00, 01 86 96 20 00. La ligne est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On fait un dernier point avec vous, Laurence Goldman, juste avant d'être en ligne avec Michaël Darmon, avec qui on évoquera les enjeux stratégiques, notamment au Moyen-Orient, bien sûr, et la position française. Laurence, où en est-on? Quelles sont les dernières nouvelles?
Bien, le bilan à cette heure est toujours le même. Je le rappelle, la nuit dernière, dans ces attaques en provenance d'Iran, concentrées sur Tel Aviv et sa région, on dénombre 4 morts à Tamra, je crois que c'est en Galilée. Il s'agit des membres d'une même famille arabe-israélienne, Manar Khatib, Khala Khatib, Shada Khatib et Manel Khatib. Par ailleurs, également 6 morts sont à déplorer dans la ville de Bat Yam. Bat Yam, c'est au sud de Tel Aviv. 3 personnes sont toujours portées disparues dans la ville de Bat Yam, hein, où plusieurs immeubles, se sont effondrés. 4 autres qui étaient portés disparus ont finalement été retrouvés dans plusieurs hôpitaux. Cette attaque de la nuit dernière a fait des centaines de blessés. Rappelons également les victimes de la nuit de vendredi soir à samedi matin. 1 mort à Ramat Gan, il s'agit de Eti Cohen Egel. 2 morts à Rishon LeZion, Israël Aloni et Yevginia Blinder. Je rappelle pour nos auditeurs que Ramat Gan et Rishon LeZion sont également des localités qui se trouvent à proximité de Tel Aviv. Peut-être une précision sur les frappes et les attaques que mène Israël sur l'Iran. Israël qui dit avoir visé des sites iraniens liés au projet d'armes nucléaires. Et pour compléter ce que je vous disais ce matin, on a appris qu'il s'agit d'installations nucléaires qui sont situées à Ispahan, également sur des sites stratégiques à Shiraz, dans le sud de l'Iran. À Shiraz, c'est le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique qui a été touché. Et puis toujours à Shiraz, une usine qui produit des équipements électroniques cruciaux pour l'appareil militaire de la République islamique a également été visée et touchée la nuit dernière par les tirs de l'aviation israélienne. Elsa, peut-être vous rappelez également ce message particulièrement fort et émouvant du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog. Les premières phrases, c'est une matinée très triste. Nos frères et sœurs ont été assassinés, blessés hier soir par des attaques criminelles iraniennes. Nous pleurerons ensemble, nous surmonterons cette épreuve ensemble.
Et Yitzhak Herzog, il était, comme nous l'a dit Ava Mergi en direct de Bat Yam, qui était sur ce site où plusieurs morts disparus et blessés sont à déplorer sa déclaration. Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, les pompiers et l'armée israélienne s'efforcent actuellement de localiser tout le monde et d'évacuer tout le nécessaire. Ce sont ces termes aussi, soyons clairs, rien ne nous dissuadera. Nous n'avons pas demandé cette guerre, les missiles ne font aucune distinction entre juifs et musulmans. Malheureusement, 13 Israéliens ont été tués. Et avant de finir ainsi, je dis à la communauté internationale, vous voulez le calme, éliminer les capacités nucléaires de l'Iran, ne les laissez pas s'en approcher. Fin de citation, 11h33 sur RCJ. On est en ligne avec Michaël Darmon, analyste politique. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et justement, on a donc cet appel d'Yitzhak Herzog à la communauté internationale, la communauté internationale et la France plus spécifiquement. La position française qui a été édictée déjà depuis vendredi par Jean-Noël Barrot est renforcée par les propos du président de la République vendredi soir. Comment la qualifieriez-vous?
Mais en fait, on peut lire ça comme une forme de rupture vis-à-vis de je dirais, de la manière dont la France aujourd'hui qualifie donc l'attitude de la politique menée par Israël. C'est une forme de rupture parce que en réalité, la France rappelle qu'elle a toujours été préoccupée donc de la préparation donc du nucléaire en Iran et a toujours considéré effectivement avec inquiétude la manière dont ça pouvait se développer et rappelait donc son droit à Israël de inaliénable de se défendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle prononce, publie ses propos après effectivement l'attaque donc d'Israël sur l'Iran, alors que justement c'est Israël qui prend l'initiative d'une attaque préventive, ce qui permet de reconnaître à la France que tout ce qui se fait donc en Iran et tout ce qui se prépare en Iran depuis donc des années avait bien donc une cible et un objectif qui était de porter atteinte et de détruire Israël. Donc c'est une manière de, je dirais, sans vraiment le dire, de raccrocher et de légitimer ce que fait, ce que dit Israël vis-à-vis de l'Iran depuis des années. Il faut ajouter à cela donc une forme de fait accompli pour la France et pour les capitales occidentales européennes en particulier, qui sont un peu sur le banc de touche et qui regardent ce qui se passe devant avec Israël, l'Iran et les États-Unis qui essayent de jouer les intermédiaires. Ce ne sont pas les coups de fil ou les appels aux uns et aux autres de présidents français qui vont, on l'a vu, changer la donne. Donc on a la prise de conscience qu'effectivement, là, il y a une démarche française qui, au fond, si elle ne va pas jusqu'à susciter l'approbation formelle quant à l'admiration, n'en parlons pas, eh bien, en tout cas, admet qu'il y a une forme de légitimité dans l'action israélienne.
Et par ailleurs, donc le chef de l'État, vous le disiez, hein, qui a eu de nombreux appels hier soir, notamment avec le président iranien, avec le président libanais, et il appelle l'Iran à revenir à la table des négociations. Cet appel à régler les choses par les négociations, est-ce qu'il n'est pas dérisoire?
Votre, comment dirais-je, la réponse est dans la question. Bien évidemment que ça ne sert à rien. Tout comme d'ailleurs, on a vu une scénographie présidentielle après un conseil de défense vendredi soir qui consistait à annoncer qu'on relevait encore le niveau de Vigipirate. Donc là, il faut savoir qu'il est déjà au plafond, que du côté des forces de police et de la place Beauvau et du ministère de l'Intérieur, on sait que c'est déjà au plafond et que ce ne sont que des propos qui sont destinés à l'opinion, à la presse et à montrer qu'il y a une présence présidentielle, parce que dans un événement pareil, le président ne peut pas ne pas en être, c'est son caractère, ça on le connaît. Maintenant, une fois cela dit, on va voir justement quelles sont les implications internationales de ce qui se passe et du conflit et de la guerre entre Israël et l'Iran, parce que bien évidemment, comme on le voit, comme on l'entend, les capacités opérationnelles iraniennes sont extrêmement affaiblies. Elles vont continuer à s'affaiblir de jour en jour parce que l'opération est loin d'être terminée. Et là, peut-être que l'arme suprême sera l'arme économique, et en particulier l'arme du pétrole, avec une action sur le détroit d'Ormuz qui laisse passer 20% du pétrole mondial.
On sent qu'il y a bien sûr une inquiétude généralisée sur ce vers quoi peut déboucher cette guerre ouverte, ces attaques réciproques depuis vendredi. Est-ce que vraiment là on est sur ce Moyen-Orient qui peut s'enflammer? C'est ce qu'on entend hein, comme risque depuis le 7 octobre et là on y est.
On l'entend depuis des années. En fait, on est dans la prolongation et les avatars d'une guerre entre l'Iran et Israël qui continue, qui a commencé il y a très longtemps et qui a toujours continué avec des formats, on va dire, et des intermédiaires différents. Effectivement, depuis le 7 octobre, on a compris que c'était les trois alliés, les trois bras armés, les auxiliaires, les proxys, comme on dit aujourd'hui, qui ont œuvré. Ils sont aujourd'hui pratiquement éliminés, en tout cas considérablement affaiblis. Et maintenant, on voit qu'Israël s'attaque à la tête de la pieuvre et, au fond, fait le travail également
que les pays occidentaux n'ont jamais eu ni le courage ni la capacité de faire, ce qui exprime effectivement une forme de silence, mais ou d'approbation, on va dire tacite. Mais il est vrai, pour reprendre votre question, que le risque d'embrasement international, régional d'abord et international, il existe. Si on reste un petit peu sur la région et pour parler des capacités, donc effectivement, de défense de l'Iran. Certains analystes qui regardent les choses de près ont constaté que depuis quelques heures, il y a un acheminement d'avions chinois qui transiteraient par le Turkménistan et qui arriveraient en Iran. Si ça s'avérait, eh bien, ça voudrait dire que là, on commencerait à avoir une forme de effectivement mondialisation du conflit. Si la Chine entre, en tout cas, fournit du matériel et ensuite entre dans le conflit, et si ces matériels sont abattus par des Israéliens lors de combats, alors là, oui, on va pouvoir parler d'un embrasement. Donc, on ne sait pas, évidemment, ce que vont réserver les prochains jours. La grande question, évidemment, aussi, c'est l'attitude de la population iranienne. Va-t-elle se servir de ce moment-là pour continuer à faire pression, voire se soulever? C'est un petit peu le rêve israélien, mais les choses de ce point de vue-là sont extrêmement compliquées parce qu'il n'y a pas d'homogénéité dans la société iranienne. On le sait, il y a plusieurs sphères, plusieurs ethnies, plusieurs grandes tribus, et il faudra à ce moment-là un élément déclencheur. Vraisemblablement, pour les Israéliens, cet élément déclencheur, ce serait l'élimination de Khamenei, le guide de la révolution, le guide de la République islamique. Depuis que le ciel de Téhéran est passé sous contrôle israélien, bien évidemment, il y a une panique supplémentaire au sein de l'establishment iranien. Et Khamenei sait maintenant, d'ailleurs les Israéliens ne s'en cachent pas, il sait maintenant qu'il est sur la liste des recherchés et des buts premiers, parce qu'évidemment, une élimination éventuelle de Khamenei porterait un coup extrêmement fort à cette République islamique qui est déjà vermoulue, qui est en cours d'effondrement, mais tout ça prend du temps, va prendre encore beaucoup de temps, mais il est clair que cette opération massive d'Israël contre l'Iran marquera un jalon très fort dans ce qui va se passer à l'avenir en Iran.
Dernière question, Michael Darmon. On ne peut évidemment pas prévoir, mais en tout cas, de ce que vous projetez, Israël qui aujourd'hui est dans une séquence depuis plusieurs mois de mise au ban sur la scène internationale assez isolée, si cette opération s'avère être relativement une réussite, est-ce que ça change la place d'Israël au Moyen-Orient? Est-ce que ça donne quelque chose de plus rasséréné?
En tout cas, à leur corps défendant, on va dire, ou à leur cœur défendant, beaucoup d'opinions internationales admettent que ce qui se passe en Israël correspond au fond à un objectif qui est légitime. Mais rassurons-nous, il n'y aura pas de grandes déclarations d'amour ou de changement d'image, puisque on voit bien que ceux qui comprennent tout de suite, et en particulier si on parle de la France, du côté de la France insoumise et des pro-palestiniens, ceux qui ont immédiatement compris qu'ils sont les victimes collatérales sur le plan de la communication, puisqu'il n'y a plus aucun espace en ce moment pour parler du sujet palestinien, eh bien ne lâchent pas l'affaire, si je puis dire, continuent à vouloir manifester, continuent à faire savoir par les médias que le plus important aussi reste la situation à Gaza, reste ce qu'il dénomme comme entre guillemets le génocide en cours, qui est inadmissible, et ils comprennent bien que là c'est beaucoup plus compliqué. On a vu qu'il y a quand même une obligation d'admettre que la situation oblige aussi un peu à faire une pause parfois dans ce type de revendication. La conférence de l'ONU qui devait se tenir cette semaine et qui devait porter sur les fronts baptismaux la reconnaissance par la France de l'État de Palestine a été reportée. Et d'ailleurs, c'est pas souvent dit, formellement dans le communiqué, elle est reportée sine die. Donc ça veut dire qu'elle est, voire pour l'instant, annulée. Donc, il n'y a pas de nouvelles, de nouveaux calendriers. Mais ça, effectivement, on verra bien. On a l'habitude, avec Israël, d'avoir un petit peu ce côté de montagne russe. Hein, souvenez-vous des années du Covid, où la presse mondiale ne tarissait pas d'éloges sur le système israélien, sur la manière dont Israël réagissait, vaccinait sa population. Et puis après, on est passé à autre chose. Donc, je pense qu'il faut prendre ça avec avec distance, mais surtout en profiter pour dire que une fois de plus, c'est Israël qui fait le travail que l'Occident n'a pas eu le courage de faire.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. 11h44 sur RCJ. Un nouveau point avec vous, Laurence.
Oui, un nouveau point avec le dernier bilan qui vient d'être publié par le ministère de la Santé israélien. Un bilan qui porte sur les deux nuits d'attaque qu'a subi Israël, celle de vendredi à samedi et puis la nuit dernière. Le ministère de la Santé publie donc un bilan de l'opération, des victimes de l'opération Am Kalavi. La nuit dernière, 385 blessés sont arrivés dans les hôpitaux israéliens. Actuellement, 7 blessés sont soignés dans un état grave, 40 sont en état modéré, 298 sont légèrement blessés, 14 personnes souffrent de troubles anxieux. Au cours des dernières 24 heures, 12 décès ont été confirmés, portant le nombre total de victimes depuis le début de l'opération à 15 morts. Je rappelle également que plusieurs responsables israéliens se sont rendus sur les lieux de la principale attaque iranienne en sol israélien. Il s'agit de la ville de Bat Yam. Le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a déclaré en constatant les dégâts que les services d'incendie et de Tzal s'emploient actuellement à localiser tout le monde et à évacuer tout ce qui doit l'être. Que ce soit clair, a dit Yitzhak Herzog, rien ne nous dissuadera. Nous n'avons pas voulu cette guerre. Les missiles ne font pas de distinction entre juifs et musulmans. Et a ajouté le président de l'État d'Israël, malheureusement, nous avons perdu 13 Israéliens. Et je dis à la communauté internationale, vous voulez parvenir à l'apaisement, éliminer les capacités nucléaires de l'Iran. Ne leur permettez pas de s'en approcher. Une déclaration donc du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, qui s'est rendu ce matin sur les lieux de la principale attaque iranienne à Bat Yam. A noté également Elsa que Eli Cohen, le ministre de l'énergie israélien, s'est rendu lui aussi il y a quelques instants sur les lieux de la principale attaque, donc à Bat Yam. Pour chaque bâtiment qui tombe dans l'État d'Israël, a dit Eli Cohen, 100 bâtiments tomberont à Téhéran et en Iran. Et puis un mot également sur le bilan des attaques menées par Israël sur le territoire israélien. Israël qui dit avoir visé des sites iraniens liés au projet d'armes nucléaires. Tzal a mené une nouvelle série de frappes ce matin contre des cibles liées à son projet d'armes nucléaires, dont le ministère de la Défense. L'armée israélienne a déclaré sur sa chaîne Telegram que son aviation avait achevé une importante série de frappes basées sur le renseignement qui visait un certain nombre de cibles à Téhéran liées au projet d'armes nucléaires du régime iranien. Et Tzal cite notamment le ministère iranien de la Défense et le siège de l'Organisation d'innovation et de recherche défensive de l'Iran. On a appris un peu plus tard dans la matinée que des installations nucléaires situées à Ispahan et sur des sites stratégiques à Shiraz, dans le sud de l'Iran, ont également été visées et touchées. Shiraz, notamment le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique, qui a donc été touché. Et puis à Shiraz, toujours une usine qui produit des équipements électroniques cruciaux pour l'appareil militaire de la République islamique. Et puis du côté de Téhéran, on confirme la mort de 7 généraux de haut rang dans ces attaques israéliennes. Je vous cite le communiqué. Les gardiens de la révolution iranienne ont officiellement reconnu l'élimination de 7 généraux de haut rang de leurs forces, tués aux côtés du commandant de l'armée de l'air, Amir Ali Ajizadeh, lors des frappes israéliennes perpétrées la nuit dernière.
Merci beaucoup Laurence. 11h48 sur RCJ, on est en ligne avec Elisabeth Shepard-Selem, docteur en relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, Elisabeth. Peut-être un focus dans un premier temps sur la position des États-Unis. C'était pas très clair au début. Étaient-ils au courant? Ont-ils dit oui ou non Israël pour lancer cette opération? Et aujourd'hui, sont-ils prêts à aider très concrètement Israël sur le terrain à mener et à continuer cette opération contre la République islamique d'Iran?
Alors pour commencer, clairement les opérations, ils ont été informés, ça a été coordonné. C'est ce qui se dit aux États-Unis, ce que disent les autorités. Ce qui veut dire en gros qu'ils ont eu le feu vert, mais que les Américains, et Trump le dit et le redit, n'ont pas participé à l'opération offensive contre l'Iran. Ça, c'est très important, notamment vis-à-vis des Iraniens, parce qu'ils ont très peur que les Iraniens ciblent bien évidemment des cibles américaines, des bases américaines dans la région. Ceci étant dit, cela ne les empêche pas de partager éventuellement des renseignements, ça veut dire juste qu'ils n'ont pas eu du personnel et du matériel qui étaient impliqués, et on sait très bien qu'ils, par contre, côté défensif, ils sont impliqués dans la défense d'Israël, et ça, c'est très important. Et je rajouterais qu'ils ont vendu énormément de munitions, ils ont vendu un certain nombre en amont de l'opération, donc très clairement, de ce côté-là, ils ont contribué. Est-ce qu'ils participent ou ils participeront? C'est tout un lobbying que le gouvernement israélien a essayé de faire auprès des Américains, notamment, je pense, pour frapper le site nucléaire de Fordo. Pour l'instant, les Américains ne veulent pas participer, notamment parce que le président se vend en tant que président de la paix veut bien évidemment ramener les Iraniens à la table de négociation. Donc, ça c'est toute notre histoire.
Sur la sécurité, par ailleurs, des bases, alors peut-être américaines, mais en tout cas sûrement françaises, ont été déclarées comme menacées. Est-ce que ça vous paraît réel qu'aujourd'hui la République islamique d'Iran puisse s'attaquer aux bases françaises dans la région après la position, on le rappelle, du président de la République, qui a notamment, on ne va pas dire soutenu les frappes israéliennes, mais en tout cas ne les a pas nettement condamnées?
Alors, on va être très honnête, c'est pas la première fois, on se souvient de la dernière fois, ils avaient même menacé Chypre s'ils laissaient les Israéliens ou les Britanniques ou autres utiliser leur base. Très clairement, c'est dans leur tendance de menacer tout le monde de ces frappes. On voit déjà que les frappes contre Israël, même s'ils sont meurtriers, ne sont pas aussi forts qu'on aurait pu croire. Donc j'ai un peu de mal à voir comment, en frappant déjà Israël et en utilisant tous les moyens qu'ils ont frappés pour Israël, avec tout ce qu'Israël a pu faire comme dégâts, à la fois matériel et dans le commandement militaire, comment ils vont frapper par ailleurs? Ce qui n'empêche pas, par exemple, de peut-être à travers des proxys, essayer, soit par des attentats, soit par d'autres types d'opérations, de cibler des bases américaines, britanniques, françaises et autres dans la région. Mais aujourd'hui, je pense que les Iraniens ont déjà assez de mal avec ce qui leur reste de missiles et d'armes conventionnelles d'attaquer directement à Israël. On a vu que le Hezbollah ne les aide pas. Ils envoient leur solidarité, mais ce n'est pas la solidarité qui va frapper quoi que ce soit. Donc je pense, pour l'instant, en tout cas, qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Et bien évidemment, on voit tous les pays occidentaux qui sont très rapides à dire « on n'a pas participé aux opérations ».
Et par ailleurs, Elisabeth, sur aussi ce débat qui anime beaucoup les plateaux français, est-ce qu'Israël était dans son droit d'attaquer? On a entendu même l'ambassadeur, évidemment, d'Iran en France, qui disait que c'était une guerre préventive, que c'était illégal sur le plan du droit international. Comment vous percevez cela?
Alors, je ne suis pas spécialiste du droit international. Je pense aussi que le droit international est beaucoup brandi vis-à-vis d'Israël sans qu'on l'applique aux autres, notamment à l'Iran. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que on se doutait que cette opération allait arriver à un moment ou à un autre parce que Israël doit protéger sa population et protéger d'un régime qui ne reconnaît pas le pays et qui menace constamment la population et l'intégrité physique d'Israël.
aujourd'hui ce fameux nouveau Moyen-Orient qui était censé se redessiner au moment où Donald Trump est arrivé au pouvoir et qui devait notamment faire pression sur Israël et le Hamas pour conclure un nouvel accord et que la paix puisse arriver. On est bien loin de tout ça, mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une nouvelle donne qui est en train de se jouer.
Je dirais que quand Trump est arrivé au pouvoir, on avait un peu l'espoir de son premier mandat qui avait ramené avec les accords d'Abraham, entre autres, un peu de peut-être paix à la région qui, bon, peut-être a été très courte, de très courte durée. Ce qu'on voit depuis ce nouveau mandat de Trump, c'est qu'il promet beaucoup de choses en termes de paix, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient, qui n'arrive pas à conclure. Donc ça, je pense aussi, c'est ce qui a conduit aussi les Israéliens à faire le nécessaire parce que les Américains, très clairement, ne le feront pas. Et en quelque sorte, pour moi, ils font le sale boulot que les Américains ne feront pas. En tout cas, on n'est pas proche d'avoir la paix au Moyen-Orient, malheureusement.
Et dernière question, Elisabeth Shepard-Salem, sur les réactions potentielles en Iran. Là, aujourd'hui, on entend bien sûr les réactions, notamment d'Ali Khamenei. Au-delà de ça, quid de ce qui peut se passer dans la population iranienne? Est-ce que pour vous, c'est susceptible de jouer un rôle dans ce qui se passe en ce moment?
Alors, on sait que la population iranienne, ils sont eux-mêmes très divisés entre ceux qui soutiennent le régime et ceux qui se battent pour leur liberté. Moi, je pense que c'est très compliqué. On peut pas forcer un changement de régime de l'extérieur. Ça a toujours mal marché, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs. Mais sur le terrain, l'opposition certainement peut profiter d'un régime affaibli pour peut-être mener des opérations. Mais ça, c'est aux Iraniens de décider aussi de leur avenir et de leur propre... Enfin, c'est une décision en interne.
Merci beaucoup, Elisabeth Shepard-Salem, d'avoir été avec nous ce matin, ce midi, sur RCJ, 11h55. A-t-on de nouvelles informations, Laurence?
De nouvelles informations qui proviennent de l'état-major de Tsahal, qui précise que 720 cibles stratégiques ont été frappées par l'aviation israélienne en Iran ces dernières 24 heures. Et parmi ces cibles, il y avait des lanceurs de missiles armés qui étaient en position de tir en Iran, direction d'Israël. Et bien, ces lanceurs de missiles ont été détruits par l'aviation israélienne. Des installations nucléaires iraniennes ont été visées par l'aviation israélienne. Il s'agit notamment d'installations nucléaires qui sont situées à Ispahan, également des sites stratégiques à Siran, dans le sud de l'Iran, où là, c'est le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique qui a été touché. Et puis toujours à Shiraz, une usine qui produit des équipements électroniques cruciaux pour l'appareil militaire de la République islamique a été détruit. Et puis l'Iran a confirmé la mort de 7 généraux de haut rang, les gardiens de la révolution iranienne, qui ont officiellement reconnu l'élimination de 7 généraux de haut rang de leur force. Peut-être Elsa redonner le bilan, le nouveau bilan encore provisoire qui a été fourni il y a une dizaine de minutes par le ministère israélien de la Santé. En 24 heures, 385 personnes ont été blessées. Ils ont été évacués dans les hôpitaux du pays. 7 personnes parmi ces blessés sont actuellement dans un état grave, 40 sont dans un état modéré, 298 sont légèrement blessés, 14 personnes souffrent de troubles anxieux. Au cours des dernières 24 heures, 12 décès ont été confirmés, portant le nombre total de victimes depuis le début de l'opération Am-Kalavi à 15 morts. Voilà ce qu'on peut dire actuellement, Elsa, pour ce qui concerne le bilan de ces attaques iraniennes perpétrées sur le sol israélien depuis vendredi soir.
Merci beaucoup, Laurence. Et sur le plan politique aussi, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense israélienne qui se réunira demain pour une séance confidentielle au cours de laquelle elle recevra un briefing opérationnel sur cette opération. Et à l'issue de ce briefing, la Commission votera pour approuver la déclaration d'une situation spéciale sur le front front intérieur. D'ici là, le porte-parole du cabinet du Premier ministre a demandé à tous les ministres du gouvernement israélien de ne pas accorder d'interview sur l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Une situation donc évidemment très tendue. 11h58 sur RCJ, on est en direct d'Israël et de Jérusalem avec Laurence Fietoussi. Bonjour Laurence.
Bonjour Elsa.
Vous êtes près de Jérusalem actuellement en Israël. Comment vous avez vécu ces derniers jours, ces dernières heures?
On est vraiment au centre de la ville. Effectivement, les nuits ont été agitées parce que, en fait, on a vu avant même les alarmes dans le ciel dès vendredi soir dans la nuit de Shabbat. On a vu des missiles et des lumières dans le ciel de Jérusalem. À 3h du matin, encore un réveil avec une alarme et des messages. Hein, on reçoit sur nos téléphones, qu'on soit touriste ou habitant, on reçoit des alertes téléphoniques pour nous prévenir que dans les minutes qui suivent, il faut aller se mettre à l'abri, pour nous prévenir à la fin des restrictions, de respecter toutes les consignes. Les Israéliens sont super disciplinés. Aujourd'hui, bon, c'est un peu différent. Aujourd'hui, c'est la fin de Shabbat, donc quelques commerçants ont rouvert, notamment boulangerie, épicerie.